Chapitre 31. Nous étions deux pour nous aimer, je reste seule pour te pleurer. La moto de Philippe Toussaint ne l'a pas emmené loin de Brancion. Il vit à 110 km exactement de mon cimetière. Il a juste changé de département. Je me suis souvent posé une foule de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'il se soit arrêté dans une autre vie et qu'il y soit resté? Est-il tombé en panne ou amoureux? Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Pourquoi ne m'a-t-il pas envoyé une lettre de licenciement, de démission, d'abandon? Que s'est-il passé le jour où il est parti? Est-ce qu'il savait qu'il ne reviendrait pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ou au contraire, est-ce que je n'ai rien dit? À la fin, je ne disais plus rien. Je faisais à manger. Il n'a pas rempli de sac de voyage. Il n'avait rien emporté. Aucun vêtement, aucun bibelot, aucune photographie de notre fille. Au début, j'ai pensé qu'il s'attardait dans le lit d'une autre femme. Une qui lui parlait. Après un mois, j'ai pensé qu'il avait eu un accident. Après 2 mois, je suis allée à la police pour signaler sa disparition. Comment aurais-je pu savoir que Philippe Toussaint avait vidé ses comptes en banque? Je n'y avais pas accès. Seule sa mère avait procuration sur tout. Après 6 mois, j'ai eu peur qu'il revienne. Quand je me suis habituée à son absence, j'ai repris mon souffle. Comme si j'étais restée longtemps sous l'eau, au fond d'une piscine. Son départ m'a permis de donner un coup de pied et de remonter à la surface pour respirer. Après 1 an, je me suis dit « S'il revient, je le tue ». Après 2 ans, je me suis dit « S'il revient, je l'empêche de rentrer ». Après 3 ans, « S'il revient, j'appelle la police ». Après 4 ans, « S'il revient, j'appelle Nono ». Après 5 ans, s'il revient, j'appelle les frères Lucchini. Plus précisément Paul, celui qui est thanatopracteur. Après 6 ans, s'il revient, je lui poserai des questions avant de le tuer. Après 7 ans, s'il revient, c'est moi qui pars. Après 8 ans, il n'en reviendra pas. Je sors de chez Maître Rouault, le notaire de Brancion, pour qu'il envoie une lettre à Philippe Toussaint. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Qu'il fallait que je m'adresse à un avocat spécialisé en droit de la famille, que c'était la procédure. Comme je connais très bien Maître Rouault, je me suis permis de lui demander de le faire à ma place, d'appeler un avocat de son choix et d'écrire la lettre pour moi, sans que j'aie rien à expliquer, rien à justifier, rien à quémander ni à ordonner. Juste informer Philippe Toussaint que je souhaitais récupérer mon nom de jeune fille. Traîner. J'ai dit à Maître Rouault qu'il n'était pas question de réclamer une pension alimentaire ou quoi que ce soit. Ce serait juste une formalité. Maître Rouault m'a parlé de prestations compensatoires pour abandon de domicile. J'ai répondu « Non, rien. Je ne veux rien. » Maître Rouault m'a dit que pour mes vieux jours, ça pourrait être mieux pour moi, plus confortable. Mes vieux jours, je les passerai dans mon cimetière. Je n'aurai pas besoin de confort en plus de ce que j'ai déjà. Il a insisté. Il a dit « Vous savez, chère Violette, peut-être qu'un jour, vous ne serez plus en mesure de travailler. Il faudra bien prendre votre retraite, vous reposer. » Non, rien. D'accord, Violette, je m'occupe de tout. Il a noté l'adresse de Philippe Toussaint, celle que Julien seul avait griffonnée dans l'enveloppe cachetée que j'avais fini par ouvrir. Monsieur Philippe Toussaint, chez Madame Françoise Pelletier, 13 avenue Franklin Roosevelt, 69 500. Bron. Permettez-moi de vous demander comment vous l'avez retrouvé. Je croyais que votre époux avait disparu. Depuis tout ce temps, il a bien fallu qu'il travaille, qu'il ait un numéro de sécurité sociale. C'était vrai. La mairie avait cessé de le rémunérer comme gardien de cimetière quelques mois après sa disparition. Ça aussi, je ne l'ai su que bien plus tard. Les parents Toussaint recevaient ses bulletins de salaire et faisaient ses déclarations d'impôts comme garde-barrière. Et garde cimetière, nous n'avons jamais payé ni loyer, ni charges. Je faisais les courses du quotidien sur mon salaire. Philippe Toussaint disait « Je te donne un toit, je te chauffe, je t'éclaire, et en échange, tu me nourris. » À part pour l'entretien de sa moto, il n'avait pas touché à ses salaires pendant nos années de vie commune. C'est toujours moi qui achetais ses vêtements et ceux de Léonine. « Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de lui ?» Toussaint est un nom commun. Il s'agit peut-être d'un homonyme ou de quelqu'un qui lui ressemble. J'ai expliqué à Maître Rouault qu'on pouvait toujours se tromper, mais pas quand on revoyait l'homme avec lequel on avait partagé autant d'années de vie commune. Que même s'il avait perdu ses cheveux et pris du poids, jamais je ne confondrais Philippe Toussaint avec un autre homme. J'ai raconté le commissaire Julien Seul à Maître Rouault, qu'il s'appelait vraiment Julien Seul, comment il avait débarqué dans mon cimetière, les cendres de sa mère, Gabriel Prudent, l'enquête qu'il avait faite sur Philippe Toussaint sans demander ma permission à cause d'une robe rouge qui dépassait de mon manteau, et le retour à la vie de Philippe Toussaint qui ne vivait qu'à 110 kilomètres de mon cimetière. Que j'avais emprunté la voiture de Nono, Norbert Jolivet, le fossoyeur, j'ai précisé. Que j'avais roulé jusqu'à Bron, que je m'étais garé à côté du 13 avenue Franklin Roosevelt, que le 13, c'était une maison qui aurait pu ressembler à celle que j'avais habitée à Malgrange-sur-Nancy avant, quand j'étais garde-barrière dans l'est de la France, mais qu'il y avait de beaux rideaux aux fenêtres, un étage en plus, et que les fenêtres étaient en chêne avec double vitrage. Qu'en face du 13, il y avait la brasserie Carnot, que j'avais bu 3 cafés en attendant. En attendant quoi? Je n'en avais aucune idée. Et puis, je l'avais vu traverser l'avenue. Il était avec un autre homme, il souriait. Ils avaient marché dans ma direction, ils étaient entrés dans la brasserie, j'avais baissé la tête. J'avais dû me cramponner au comptoir quand Philippe Toussaint était passé derrière moi. J'avais reconnu son odeur, son parfum particulier, un mélange de « pour un homme » de Caron et de celui des autres femmes. Ils portaient toujours leur odeur comme un vêtement détesté. Sans doute l'odeur de ces anciennes maîtresses qui s'étaient accrochées comme de mauvais souvenirs et que moi seule percevais, même après toutes ces années. Les deux hommes avaient commandé 2 plats du jour. Je l'avais regardé déjeuner dans le miroir en face de moi. Je m'étais dit que tout était possible, qu'il souriait et que n'importe qui pouvait refaire sa vie, que ni Léonine ni moi n'avions de nouvelles de lui depuis longtemps et que tout le monde l'ignorait dans son présent. Que n'importe qui pouvait apparaître dans une vie et disparaître dans une autre, ici ou ailleurs. N'importe qui était capable de se reconstruire, de tout refaire. N'importe qui pouvait être Philippe Toussaint qui partait faire un tour et ne revenait pas. Philippe Toussaint avait grossi, mais il souriait franchement. Je l'avais jamais vu sourire comme ça du temps où nous vivions ensemble. Son regard n'était toujours pas habité par la curiosité. Il vivait avenue Franklin Roosevelt, et je savais que même dans ce présent, celui où il souriait plus qu'avant, il ne savait pas qui était Roosevelt. Que même s'il avait changé de vie, si dans celle-là quelqu'un lui avait demandé qui était Franklin Roosevelt, il aurait répondu « le nom de ma rue ». Agrippé à mon comptoir, j'avais compris que j'avais eu beaucoup de chance qu'il soit parti et jamais revenu. Je n'avais pas bougé. Je ne m'étais pas retournée. Je lui tournais le dos. Je ne voyais de lui que son reflet souriant dans le miroir. Le serveur l'avait appelé « Monsieur Pelletier », mais celui que j'avais pris pour son ami l'avait appelé 2 fois « patron ». Puis le serveur avait dit « Je mets tout sur la note comme d'habitude, Monsieur Pelletier ». Et Philippe Toussaint avait répondu « Ok ». Je l'avais suivi dans la rue. Les deux hommes marchaient côte à côte. Ils étaient entrés dans un garage situé à 200 mètres de la brasserie, le garage Pelletier. Je m'étais caché derrière une voiture qui semblait aussi mal en point que moi quand Philippe Toussaint avait disparu. En panne, cabossé, rayé, garé sur un côté en attendant de savoir ce qu'on en ferait. Il y avait sûrement quelques pièces du moteur à récupérer. Un reste de carburant au fond de la jauge. Assez pour redémarrer. Finir le voyage. Philippe Toussaint s'était dirigé vers un bureau protégé par des parois vitrées. Il avait téléphoné. Il avait l'air d'être le patron. Mais quand Françoise Pelletier était arrivée 10 minutes après, il avait l'air d'être le mari de la patronne. Il l'avait regardé en souriant. Il l'avait regardé amoureusement. Il l'avait regardé. J'étais repartie. J'avais récupéré la voiture de Nono. Une contravention était coincée entre le pare-brise et l'essuie-glace. 135 € d'amende parce que j'étais stationnée au mauvais endroit. L'histoire de ma vie, j'ai dit en souriant au notaire. Maître Rouault est resté sans voix pendant quelques secondes. Ma chère Violette, j'ai tout vu dans mon métier de notaire. Des oncles qui se font passer pour des fils, des sœurs qui se renient, des fausses veuves, des faux veufs, de faux enfants, de faux parents, de fausses attestations, de faux testaments. Mais on ne m'avait jamais raconté une histoire pareille. Puis il m'a raccompagnée jusqu'à la sortie. Avant que je quitte son étude, il m'a promis de s'occuper de tout, l'avocat, la lettre, les formalités du divorce. Maître Rouault me porte dans son cœur parce qu'à chaque fois qu'il va geler, je m'occupe de recouvrir les fleurs originaires d'Afrique qu'il a plantées pour sa femme. Marie Dardenne, épouse Rouault, 1949-1999.